Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui, et à la lumière des révélations du 8 août dernier, Affaires Sensibles vous propose de réécouter l'histoire de l'attentat contre le restaurant chez Goldenberg, rue des Rosiers, dans le quartier juif de Paris. Les faits d'abord. Le 9 août 1982, des tueurs à visage découvert tirent à vue sur et dans le restaurant. Un acte terroriste, antisémite et abject, un bilan dramatique, 6 morts et 22 blessés, certains traumatisés, amputés ou paralysés à vie. 2 ans seulement après l'attentat qui a visé la synagogue de la rue Copernic, pour la communauté juive, cet épisode est un nouveau traumatisme. Dans la torpeur de cet été 82, les regards se tournent alors vers la piste proche-orientale, presque par réflexe, tant l'actualité du début des années 80 s'y prête. La guerre, menée par l'État hébreu au Liban, cristallise les passions. Sur ce point, comme sur les autres, rien n'est sûr, mais tout laisse à penser que ceux qui ont armé les assassins et les assassins eux-mêmes viennent du Proche-Orient. Comme une histoire sans fin, 33 ans après les faits, en mars 2015, sur la foi de témoignages anonymes, un juge d'instruction français, Marc Trévidic, délivre 3 mandats d'arrêt internationaux contre des individus soupçonnés d'avoir participé ou organisé l'attentat. Des personnes qui auraient appartenu à la nébuleuse terroriste d'Abu Nidal, chef palestinien. Et puis donc, le 8 août dernier, cette révélation de l'ancien patron des services secrets français qui affirme qu'il y a eu un pacte secret entre ces services et le groupe Abu Nidal. En substance, plus d'attentats sur le sol français et les membres de votre organisation réfugiée à l'étranger pourront revenir en France sans être inquiétés. Notre invité aujourd'hui, Vincent Gautronneau, journaliste au Parisien, auteur avec Jérémy Pamelet de l'article édité le 8 août dernier sur cette révélation, précisément. Affaires sensibles, l'émission de France Inter, en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Jérôme Chélius.
Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter.
Lundi 9 août 1982, Paris, place Saint-Paul, 4e arrondissement. Ici, dans le quartier historique de la communauté juive, nombreux sont les juifs et les autres d'ailleurs qui viennent faire leurs achats dans les épiceries alimentaires cachères, flâner dans les librairies spécialisées ou encore profiter des joies de la gastronomie caractéristique des petits restaurants qui ont pignon sur rue. On vient y goûter un falafel dans une ambiance particulière, attachante, insouciante. C'est l'un des quartiers de Paris les plus typiques. Ce jour-là, vers 13h15, à l'heure où les restaurants sont pleins, une voiture de couleur blanche remonte la rue pavée, puis prend à gauche rue des Rosiers. Arrivé au numéro 7, 4 hommes en costume gris portant des sacs noirs à l'épaule en descendent. Arme à la main, ils poussent lentement la porte du restaurant chez Goldenberg, comme le ferait n'importe quel client. Quinze secondes plus tard, c'est le carnage. Les hommes lancent une grenade et tirent à vue sur les clients ainsi que sur le personnel du restaurant, à l'arme automatique. Dans la panique et pour tenter de sauver sa vie, le garçon de salle du restaurant s'échappe en sautant par la fenêtre du premier étage. Il est grièvement blessé. Puis, dans un vacarme assourdissant, les assaillants repartent du restaurant en mitraillant les passants. Avec un calme et un sang-froid qui étonnera les témoins, ils remontent la rue des Rosiers à vive allure. À quelques mètres de là, ce commerçant raconte...
J'attendais le premier coup de mitraillette, deuxième, j'ai sorti, moi je croyais que c'était de la rigolade ou des enfants, mais je voyais les gens, ils commencent à tomber par terre, j'ai rentré chez moi, j'ai fait un cri dans le quartier, et tout le monde ils entendent la lumière, et moi j'ai éteint ma lumière, et j'ai fermé le magasin, et j'ai resté contre le mur, et j'ai vu les deux types passer, et un brun et un autre, avec deux mitraillettes en main.
Ils passaient en courant?
En courant, en pleine vitesse.
Et les gars tiraient de tous les côtés?
Ah, de tous les côtés, celui qui passe, il tire dessus.
Les passants terrorisés s'engouffrent dans les boutiques et tentent de se protéger. D'autres se réfugient dans les cours d'immeubles. À 300 mètres du restaurant, un employé de chez Goldenberg, attiré par le bruit, ouvre la porte. Son regard croise celui d'un des terroristes qui bat en retraite. Le malfaiteur s'arrête et lui tire dessus. Le jeune employé s'écroule, gravement touché. Il restera près de 2 semaines à l'hôpital et sera handicapé à vie. D'un pas rapide mais déterminé, le commando prend ensuite la rue Saint-Gervais, tirant au hasard sur tout ce qui bouge, avant d'arriver rue des Blancs-Manteaux, où il fait face à un homme. Encore une fois, il tire à bout portant. Plusieurs années après, la victime témoigne.
Je suis tombé nez à nez avec quelqu'un qui est arrivé avec une mitraillette et qui m'a tiré dans les jambes. Alors à ce moment-là, je suis tombé. J'ai crié, je crois. Tout de suite après est arrivé le second qui lui a essayé de m'achever d'une rafale de mitraillette. Et j'ai eu une chance prodigieuse puisque la balle est entrée là et sortie là.
Déboutonnant sa chemise face à la caméra, Jacques-Henri Varichon montre les deux impacts de balles dans le thorax, à quelques centimètres seulement du cœur. Dans la panique qui règne à ce moment-là, rue des Rosiers, un homme sorti de nulle part se précipite arme à la main vers le restaurant Goldenberg. Tout le monde pense que c'est un complice des terroristes qui revient finir le travail. Dans la panique, et pour se défendre, le fils du restaurateur sort son fusil, il tire une balle mortelle. L'homme s'écroule. Il s'agit en fait d'un policier en civil, un jeune père de famille qui venait s'assurer que les tueurs n'étaient plus dans le restaurant. Le cauchemar continue. Minutes plus tard, d'importants moyens de secours arrivent rue des Rosiers. Le quartier est rapidement bouclé pour éloigner les badauds qui se rassemblent et protéger les rues adjacentes. Partout dans le quartier, on entend des cris, des pleurs et surtout, on peut apercevoir du sang sur la chaussée. Ici et là, à des endroits très éparses, de petites traces d'impact dans les murs témoignent de la violence, de la fusillade. Du côté des victimes, on compte une trentaine de personnes, certaines plus gravement touchées que d'autres. Dans le restaurant, chez Goldenberg, les pompiers découvrent l'horreur. Devant le comptoir, plusieurs corps baignent dans une mare de sang. L'air est empli d'une odeur qui témoigne de la fusillade qui s'est déroulée ici quelques minutes plus tôt. C'est alors que le patron du restaurant, Joe Goldenberg, rentre de sa résidence secondaire de Chantilly. On lui apprend la nouvelle. À son tour, il pénètre dans le restaurant où il ne peut que constater l'étendue du carnage. Et il découvre les corps de certains de ses amis, de ses employés qu'il connaît de longue date, et même de l'un de ses cousins. Bien des années plus tard, il raconte comment s'est déroulé l'assaut.
Elle a implosé au lieu d'exploser. C'était une grenade défensive. C'est ce qui a fait que la caissière et les gens qui étaient autour ont reçu les impacts. Là, ici, vous voyez les éclats de grenade en haut et aussi des balles qui ont éclaté dans le plafond. Et là, vous avez les impacts de balles qui ont été tirés en partant de cet escalier que vous voyez là. Ici, une caisse a reçu aussi des balles. Cette caisse a protégé la caissière qui se trouvait là.
Dans les heures qui suivent, l'émotion reste très vive devant l'acharnement, le sang-froid et la détermination des tueurs. Le restaurant de Joe Goldenberg, au cœur du Marais, fait partie de ses adresses symboliques pour la communauté juive. Voilà près de 50 ans qu'il ouvre quotidiennement ses portes. C'est une institution, Goldenberg. Oh, bien sûr, il a déjà reçu des menaces, mais qui aurait pu penser qu'elle déboucherait sur cet acte de guerre? Juste à côté, dans la boucherie voisine, des clients racontent eux aussi ce qu'ils ont vu.
Le gars qui tirait, il avait un costume gris, que j'ai bien vu, avec une mitraillette sous sa veste. Il tirait sur tout le monde.
C'est des jeunes. C'est des jeunes entre 25 et 30 ans. On l'a vu d'ici. Parce qu'ils étaient juste en face de nous, là, ils étaient en train de nous viser derrière la voiture.
Ils sont arrivés par nous.
Heureusement que c'était vide, heureusement. C'était pas un jour de fête ou un jour d'homme.
Parce que s'ils seraient venus un mercredi, un jeudi, il y aurait un carnage.
Dans l'après-midi, la préfecture de police donne un premier bilan, 6 morts et 30 blessés. La plupart des victimes se trouvaient dans le restaurant, mais d'autres ont été abattus en pleine rue. Quant aux tueurs, malgré plusieurs dizaines de témoignages, on perd leurs traces du côté de la rue des Blancs-Manteaux. Certaines personnes affirment qu'elles les ont vues s'engouffrer dans une bouche de métro, d'autres au contraire expliquent que les assassins sont montés dans une voiture ou dans une camionnette de couleur grise. Vers 18h30, la rédaction du journal François reçoit un appel anonyme. Au bout du fil, on entend une voix d'homme, sans accent particulier. Il déclare « Nous sommes le groupe Action Directe, nous revendiquons l'attentat de la rue des Rosiers ». Et quelques minutes plus tard, un autre appel, toujours anonyme, vient démentir toute implication de l'organisation française d'extrême gauche. « Sur le coup de 20h, le président de la République, François Mitterrand, se rend sur les lieux du drame où un important dispositif policier est mis en place pour maintenir la foule qui gronde dans les rues avoisinantes. Il faut dire qu'un quart d'heure plus tôt, lors de son arrivée, le ministre de l'Intérieur, Gaston Defferre, s'est fait copieusement huer. Il a été pris à partie à la sortie de son véhicule. François Mitterrand tient à manifester son émotion et sa solidarité à l'égard de la communauté juive. Aussi se rend-il à la synagogue du quartier, celle de la rue Pavée, pour assister, sur sa demande, à l'office religieux en hommage aux victimes. Dans la synagogue, restée à moitié vide pour des raisons de sécurité, les incantations s'égrènent au rythme des mélodies lancinantes et torturées du kaddish, la prière des morts. L'atmosphère qui règne en ces lieux est pesante. Au premier rang, on voit aux côtés d'un président de la République blême, un Joe Goldenberg, effondré. Dans le calme de ce recueillement, personne n'entend les gens qui dehors hurlent leur colère. Ce n'est que lorsque le président de la République ressort que les cris redoublent. Mitterrand assassin ou encore Mitterrand trahison. Acculé devant la portière de son véhicule, protégé par les gendarmes, le chef de l'État s'exprime.
J'ai toujours été, et je suis l'ami de la communauté juive de France. Et je suis venu m'associer à sa douleur, comme je l'ai toujours fait. Aujourd'hui, un nouvel attentat, commis par des lâches, vient de nouveau d'ensanglanter cette communauté. Comme vous le faites vous-même, je m'incline devant les victimes. Et je dis que ce fanatisme-là, comme tous les fanatismes, me trouvera devant lui.
Le président, conspué, s'engouffre dans son véhicule et repart. Un peu plus loin, Gaston Defferre, ministre de l'Intérieur, est bousculé par les manifestants. Les policiers interviennent, mais derrière eux, la foule gronde. Plus loin, des manifestants font part de leur colère, et aussi, et surtout peut-être, de leur peur.
Je crie tout simplement parce que je suis révolté de ce lâche attentat. C'est tout.
C'est l'attentat lui-même qui vous révolte.
C'est l'attentat et les journalistes, les médias qui ont monté les Arabes contre les Juifs. C'est tout.
Moi, je suis juive et j'étais socialiste. Eh bien, je ne voterai plus socialiste. Oui. Car l'attentat d'aujourd'hui, c'est le résultat de la politique du Parti Socialiste. C'est dans cette atmosphère de haine d'Israël que les Arabes, car ce sont des Arabes, que les Arabes peuvent se livrer impunément à ce genre d'attentat. Il y en a constamment. Jamais, jamais on a tué autant de Juifs qu'en France. C'est en France qu'on tue le plus de Juifs. C'est la France qui a été le fer de lance de la politique.
Le Parti communiste est complice de tout ça.
Les socialistes aussi.
L'antisémitisme devient naturel en France maintenant.
Voilà. Et les Arabes, c'est la sécurité.
On voit de plus en plus d'inscriptions dans le métro, partout sur les affiches, contre les Juifs.
Lueur immobile d'un jour qui s'achève, la plainte douloureuse d'un chien qui aboie, le silence inquiétant qui précède les rêves, quand le monde disparu, l'on est face à soi, les frissons où l'amour et l'automne s'en mêlent. Noir où s'engloutissent autrefois nos lois, cette inquiétude sourde qui coule en nos veines, qui nous saisit même après les plus grandes joies, ces visages oubliés qui reviennent à la charge, ces étreintes quand même on peut vivre sans foi. Ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard, ces raisons-là qui font que nos raisons sont vaines, ces choses au fond de nous qui nous font veiller tard. Paroles enfermées que l'on n'a pas pu dire, ces regards insistants que l'on n'a pas compris, ces appels évidents ces lueurs tardives. Ces morsures aux regrets qui se livrent à la nuit.
Le lendemain matin, les commerces de la rue des Rosiers et des rues avoisinantes ont tous baissé leurs rideaux de fer. Sur les vitrines, on peut lire « Ici, la vie vit toujours, Israël vivra » ou encore « Fermeture exceptionnelle, des êtres humains sont tombés devant chez nous, solidarité ». Dans ce quartier, carrefour du souvenir et de l'avenir de la communauté juive, l'émotion demeure très forte. Dans la matinée, un grand rassemblement est organisé rue des Rosiers devant le restaurant Goldenberg. Vers 11h, on compte près d'un millier de personnes juives ou non, parmi lesquelles énormément de Parisiens choqués par le drame qui s'est déroulé la veille en plein cœur de la capitale. Dans le calme et le silence, tous prennent place dans la rue et les ruelles alentour. Des jeunes chantent des chants religieux pendant que d'autres pleurent les disparus. C'est le temps du recueillement, mais déjà, on ressent ce sentiment d'exaspération et de colère de toute une communauté. Certains journalistes qui viennent couvrir l'événement sont invités à quitter le quartier. On les accuse de détourner l'information et de vouloir masquer la vérité sur les vrais auteurs de l'attentat. Au même moment, sur les ondes de la radio communautaire Radio Shalom, la journaliste Muriel Bernheim ne peut contenir son émotion.
Non, je n'oublierai jamais que 22 mois après Copernic, une nouvelle fois, le terrorisme aveugle a frappé ma famille. Je n'oublierai jamais. Mais je ne puis pardonner. Alors ce matin, personne ne m'empêchera de crier ma souffrance. Ce matin, je ne sais plus ce que veut dire le pardon. Ce matin, je me sens inutile. Et pourtant, ce matin, j'ai envie de vivre pour que vous, les salauds, n'oubliez jamais ce que vous avez fait à ma famille. Ce matin, je vous le jure, vous à qui la vie tendait les bras, mes enfants sauront. Mes enfants apprendront, mes enfants n'oublieront jamais. Mais tout comme moi, mes enfants ne pardonneront jamais.
Difficile d'oublier en effet pour la communauté juive, d'autant que les stigmates et les images d'un autre attentat à la bombe persistent. Celui de la synagogue de la rue Copernic 2 ans plus tôt, en octobre 1980, à Paris. Un colis piégé qui avait fait 4 morts et une 40aine de blessés, principalement des passants, actes terroristes non revendiqués. Plusieurs services de renseignement occidentaux avaient fait part à la DST de la possibilité d'un lien avec un groupuscule terroriste basé au Proche-Orient et qui avait déjà frappé ailleurs, en Europe. Plusieurs témoignages recoupés lors de l'enquête ont permis d'établir le portrait robot de l'individu soupçonné d'avoir déposé le paquet piégé, un homme venu du Proche-Orient. Pourtant, malgré ces éléments, l'Élysée reste sur son tropisme palestinien initié par le général de Gaulle. Même si François Mitterrand apparaît comme le président français le plus proche d'Israël depuis le début de la Ve République, il a déjà envoyé des signaux dans ce sens. Mais il va exercer une certaine pression pour que l'enquête s'oriente vers la piste antisémite de l'extrême droite. Une direction pourtant vite perçue comme sans fondement par les enquêteurs et qui d'ailleurs n'a pas abouti. Alors, la rue des Rosiers. Serait-ce le même groupe que celui qui a frappé rue Copernic 2 ans plus tôt? Rien ne permet de l'affirmer, ni même de le penser tout simplement, parce qu'aucun élément de preuve ne le permet. Mais du côté de la communauté juive de France, c'est une piste qu'on privilégie. Fervent partisan de cette hypothèse, le président de la LICRA, Jean-Pierre Bloch, proteste devant les caméras d'Antenne 2.
Ce que j'ai dit le soir de Copernic, l'extrême droite en France, à l'heure actuelle, à mon avis, n'est pas capable d'organiser des attentats de cette importance. Et les faits l'ont démontré. Aujourd'hui, on sait que Copernic a été organisé par des gens qui venaient du Proche-Orient. Vous avez vu sans doute, comme moi, qu'un Arménien a déclaré, dans une interview accordée au journal Le Quotidien, ce sont les Palestiniens d'extrême gauche qui ont fait Copernic. Eh bien aujourd'hui, moi, je ne suis pas un prêtre. Je dis, j'accuse à nouveau, c'est facile à l'OLP de démentir, c'est peut-être son extrême, mais je dis, c'est encore des gens qui sont venus du Proche-Orient qui ont commis ce crime abominable contre des gens innocents. Nous le condamnons. Et j'ajouterai que il n'est pas question pour nous, juifs ou non-juifs, anciens résistants, de permettre que nos femmes, que nos enfants soient lâchement assassinés au coin d'une rue. Je dis que Paris est aujourd'hui la plaque tournante du terrorisme international. C'est net, c'est prouvé. Je demande au gouvernement d'agir avec vigueur contre ceux qui profitent de l'hospitalité française pour commettre des crimes.
La France, plaque tournante du terrorisme international. Les propos de Jean-Pierre Bloch semblent difficiles à concevoir avec notre regard d'aujourd'hui, tant il est vrai qu'à l'exception de la folie meurtrière de Mohamed Merah en mars 2012 et des tragiques événements de Charlie Hebdo et de l'hypercachère en janvier dernier, la France est restée relativement épargnée pendant plus d'une décennie par les actes terroristes en tout genre. New York, Madrid et Londres n'ont pas eu cette chance. Mais quand on se replonge dans la France et dans le monde des années 80, la réalité terroriste est toute différente. En 1982, la DST, les services de lutte antiterroriste, sont chaque jour sur les dents. Les ennemis s'appellent Carlos, Action Directe ou encore l'armée secrète de libération de l'Arménie, l'Azala, et ils frappent partout. On se souvient de l'attentat du Capitole, ce train reliant Paris à Toulouse qui a fait 5 morts et plus d'une trentaine de blessés au mois de mars. Puis un mois plus tard, donc en avril, l'explosion d'une voiture piégée en plein Paris rue Marbeuf devant les bureaux d'un hebdomadaire libyen qui a tué une personne et en a blessé 63 autres. Et puis il y a cette prise d'otage et autres braquages spectaculaires du groupe Action Directe. Et surtout, au mois de juin et juillet 82, d'autres attentats en plein centre de Paris.
C'est dans une poubelle en face d'un café de la place Saint-Michel que la bombe avait été placée entre une boîte aux lettres et une cabine téléphonique. À 23h15, alors que la terrasse est comble, l'engin explose. Les parois de la poubelle amortissent le choc, mais 15 consommateurs sont blessés aux jambes par les éclats d'acier. 2 sont dans un état sérieux. Des voitures sont touchées, des vitres brisées, mais les dégâts matériels ne sont pas très importants. À minuit, l'attentat est revendiqué par l'organisation arménienne Orly. L'attentat suscite un grand émoi au cœur de la diaspora arménienne.
Les attentats, la vague d'attentats en France en 1982 laisse derrière elle un bilan dramatique. Plusieurs dizaines de morts et plus d'une centaine de blessés, une sorte d'année de plomb à la française. C'est dans ce climat de peur et de tension que se déroule au mois d'août l'attentat de la rue des Rosiers. Alors, question lancinante, qui a frappé chez Goldenberg ? Pour les enquêteurs, la difficulté d'arriver à s'orienter vers la bonne piste, sans se laisser influencer d'une part par le pouvoir politique qui voit l'ombre de l'extrême droite et d'autre part par la communauté juive qui dénonce, elle, un lien manifeste avec les mouvements terroristes venus du Proche-Orient. Pour l'historien Philippe Bourdrel, l'attentat de la rue des Rosiers s'inscrit en fait dans une continuité de l'histoire de l'antisémitisme en France, mais avec d'autres horizons.
Il faut bien se rendre compte que il existe une sorte de permanence d'un antisémitisme viscéral, qui n'ose pas dire son nom, diffus, permanent. Nous avons tous l'occasion d'en saisir, justement, malheureusement, la permanence. Pouvoir relier l'événement de la rue des Rosiers comme celui de la rue Copernic à une forme d'antisémitisme français, là, franchement, je crois que l'on ferait erreur. C'est une forme nouvelle de l'antisémitisme, mais qui est visiblement, les gens sensés et avertis vous le diront, qui est visiblement lié à un contexte international et en l'occurrence au drame effroyable que vit actuellement le Liban.
Au même moment, à 3000 km de là, sur les rives orientales de la Méditerranée, la ville de Beyrouth vit sous les bombes et les rafales de mitraillettes. Le Liban, déjà victime de la guerre civile, est sous le joug de l'armée israélienne. Une invasion baptisée « Paix en Galilée ». Pour l'État hébreu, à la fois lucide et paranoïaque, il s'agit de riposter aux multiples attaques palestiniennes de l'OLP sur son territoire. Officieusement, il s'agit d'en finir une fois pour toutes avec la question palestinienne. Une situation qui n'a pas évolué depuis, disons qu'elle a pris d'autres formes. C'est d'ailleurs la tentative d'assassinat de son ambassadeur à Londres en juin de la même année qui offre au char israélien du général Sharon le prétexte pour intervenir au Liban. L'attentat de la rue des Rosiers serait-il une réplique palestinienne liée à ce théâtre de guerre proche-orientale ? Du côté de l'OLP, depuis des années, par l'intermédiaire notamment d'Azzedine Kalak, son représentant à Paris, on dément toute implication dans les actes de terreur qui font couler le sang en Europe.
Le peuple palestinien n'est pas un peuple revanchard. Nous avons vécu avec amertume l'expérience de septembre 70, où des milliers de notre peuple ont péri, mais nous regardons les choses politiquement et nous luttons pour un meilleur avenir pour le peuple palestinien.
Certes, il est très facile pour l'OLP d'agir, puis de démentir pour brouiller les pistes. C'est de bonne guerre dans une sale guerre. Toutefois, dans leur enquête, les policiers vont tomber sur un indice de poids qui va les orienter définitivement vers la piste proche-orientale et vers un groupe en particulier, celui d'Abou Didal. Le soir même de l'attentat, la brigade criminelle située au 36 quai des Orfèvres à Paris entend 40 témoins. Le lendemain matin, 8 personnes appartenant au groupe Action Directe sont interpellées à Paris. Pour la police, il s'agit d'un coup de filet préventif dans les milieux dits à risque et en lien avec l'appel de revendication qu'a reçu le journal François le jour de l'attentat. Les individus sont retenus puis interrogés, mais très vite relâchés. Un responsable de la police les jugera trop amateurs pour avoir réussi à monter un tel coup. Puis les policiers mettent la main sur un élément matériel déterminant, les douilles des balles qui ont servi dans la fusillade. Elles sont de calibre 9 mm. Grâce à son expertise, le laboratoire central de la police détermine le type d'arme qui a tué les 6 personnes et qui en a blessé 22 autres. Il s'agit d'un pistolet mitrailleur WZ-63 de fabrication polonaise. Or, cette même arme est retrouvée un peu plus tard dans un sac en plein cœur du bois de Boulogne. Elle a servi notamment à Vienne un an plus tôt, le 29 août 1981. Ce jour-là, 3 hommes lancent une grenade et arrosent les passants au pistolet mitrailleur devant une synagogue. Le bilan est dramatique, 2 morts et 18 blessés. Interpellé par la police autrichienne, les tueurs appartiennent au groupe Abou Didal. Abou Didal, de son vrai nom Sabri Khalil al-Banna, est un extrémiste palestinien dissident du Fatah. Soutenu par intermittence par les Irakiens et par les Syriens, il se livre à une guerre sans merci contre l'OLP et il multiplie les attentats à travers toute l'Europe contre les représentations de l'Organisation de Libération Palestinienne, mais aussi, et bien sûr, contre les cibles israéliennes. Un temps soupçonné de travailler en sous-main pour les Israéliens, c'est lui qui organise la tentative d'attentat contre l'ambassadeur d'Israël à Londres. Un acte perpétré avec la même arme, un pistolet mitrailleur WZ-63, une piste qui offre aux Israéliens le prétexte pour envoyer son armée au Liban. Faut-il établir un lien, alors, avec la rue des Rosiers et avec l'attentat de la rue Copernic ? À partir des indications de nombreux témoins, 4 portraits robots sont diffusés. Ils correspondent pour certains à des hommes de type caucasien et pour d'autres à des individus proche-orientaux âgés entre 20 et 30 ans. Deuxième indication, leur attitude calme et déterminée ainsi que la précision de leurs tirs permettent aux policiers de déduire qu'ils ont bel et bien affaire à des professionnels surentraînés ou à d'anciens militaires. Pourtant, malgré des éléments probants, les semaines vont passer et l'enquête va s'enliser. Comme si une information essentielle semblait manquer aux policiers de la brigade criminelle pour pouvoir avancer et mettre des noms sur les tueurs. Un temps évoqué, la piste néo-nazie ne débouche sur rien de concret, tout comme la fantaisiste interpellation des Irlandais de Vincennes à la fin du mois d'août 1982. Ainsi, les commémorations passent comme le temps, 10 ans. 20 ans, puis 30 ans, quand enfin, 32 ans après, en mars de cette année, le juge d'instruction Marc Trévidic, qui se base sur des témoignages d'anciens agents des services de renseignement et sur des comparaisons balistiques, délivre 3 mandats d'arrêt internationaux contre 3 suspects d'origine palestinienne qui vivent en Norvège, en Jordanie et en Cisjordanie. Sur ces 3 personnes identifiées par la justice, 2 auraient participé à l'attentat de la rue des Rosiers. Reste à savoir si les autorités françaises obtiendront gain de cause pour l'extradition de ces suspects afin de les entendre et le cas échéant de les juger en France. Comparaîtraient alors les auteurs présumés de l'un des attentats les plus meurtriers qu'on ait connus à Paris. La mémoire des victimes s'en trouverait honorée, la souffrance des blessés peut-être apaisée et la peine de leurs proches allégée. Ce n'est pas rien. There were Aujourd'hui, l'attentat de la rue des Rosiers en 1982. Vous avez entendu pendant le récit la phrase suivante. Le juge Trévidic relance l'enquête cette année. Eh bien, parce que la première diffusion de cette émission a eu lieu en 2015 et le juge Trévidic a relancé l'enquête en 2015. Et puisque nous sommes encore en période de rentrée, j'en profite pour vous rappeler le mode opératoire d'Affaires Sensibles. 3 émissions en direct par semaine, une fiction le vendredi et une rediffusion, une seule par semaine. D'abord pour actualiser des histoires que nous avions racontées, c'est bien le cas aujourd'hui. Et aussi avec un invité qui en revanche est un nouvel invité en direct pour un nouveau regard. Et ce nouveau regard, ce sera le vôtre aujourd'hui, Vincent Gautrenot. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste au Parisien. Vous êtes l'auteur avec Jérémy Famelet de l'article paru le 8 août dernier, justement, sur la révélation d'un accord tacite entre les services secrets français et le groupe terroriste Abou Nidal. En d'autres termes, c'est vous qui avez sorti l'info. Alors, tout d'abord, pourquoi l'avez-vous sorti, cette info, ce 8 août dernier, alors que Yves Bonnet, ancien patron d'ADST, donc les services secrets intérieurs français de l'époque, avait déclaré au juge d'instruction Régis Pierre, en janvier de cette année, avoir passé ce pacte avec le groupe Abou Nidal il y a 37 ans. Donc il y a un delta, là, un délai entre ce que apprend le juge en janvier et ce que nous, Français, grâce à vous, apprenons plus tard, 8 mois plus tard. Pourquoi ce délai ?
C'est tout simplement parce qu'en fait, on s'est mis à travailler sur l'attentat de la rue des Rosiers pour préparer un papier le jour de l'anniversaire de l'attentat, parce qu'on avait appris qu'il y avait il y allait avoir une cérémonie organisée en hommage aux victimes 32 ans après. Et c'est en travaillant sur cette cérémonie, en contactant des gens, qu'on a appris que Yves Bonnet avait été pour la première fois entendu par un juge d'instruction.
Comme quoi, il faut fouiller, hein. C'est en fouillant qu'on trouve. Alors, qu'est-ce que c'est que cet accord? Qu'est-ce que la France a gagné? Bon, plus d'attentats. Parce que qu'est-ce qu'il dit l'accord, déjà? On le rappelle.
Yves Bonnet, très clairement, quand il est devant le juge d'instruction en janvier dernier, il dit, on a passé une sorte de deal verbal en leur disant, il parle des terroristes d'Abou Nidal, je ne veux plus d'attentats sur le sol français. En contrepartie, je vous laisse venir en France. Je vous garantis qu'il vous arrivera rien. Donc, en clair, il dit à un groupe terroriste, vous ne risquez rien si vous venez en France, si vous arrêtez de commettre des attentats sur notre sol.
Et est-ce qu'on sait comment sont passées ces tractations? Est-ce que ça a été un accord proposé, immédiatement accepté? Qu'est-ce qui s'est passé?
Alors, on le sait par les déclarations d'Yves Bonnet. Après, il faut avoir foi en les déclarations d'Yves Bonnet ou non. Mais ce que dit Yves Bonnet, c'est qu'en fait, c'est à l'invitation d'amis autrichiens qu'il rencontre les membres d'Abu Nidal, pas lui directement, il fait rencontrer les membres d'Abu Nidal par des agents de la DST de son équipe. À l'époque, les membres d'Abu Nidal, selon Yves Bonnet, ils ont trois demandes. La récupération des locaux de la librairie arabe sur Saint-Victor, l'installation à Paris d'un représentant permanent et la libération des deux meurtriers d'Azdine Kalak, qui était un représentant de l'OLP assassiné à Paris. La seule chose, selon Yves Bonnet, qu'a accepté la DST, c'est que deux visiteurs du groupe Abu Nidal aillent en prison à Muret rencontrer leurs deux membres incarcérés.
Mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'ils ont à gagner, ces membres de l'organisation d'Abu Nidal, à revenir en France et pour aller ailleurs, après tout?
Je pense qu'ils étaient à l'époque certains installés en France et ils avaient très certainement des intérêts en France. Et c'était peut-être pour eux une porte d'entrée sur l'Europe.
Alors, quel crédit accorder à cette confession tardive, 37 ans après les faits? Ben, vous accordez du crédit puisque vous relayez cette information. On peut se demander pourquoi il dit ça maintenant. Est-ce qu'il cherche à défendre quelque chose lui-même? Qu'est-ce que vous avez pensé, vous?
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Yves Bonnet avait déjà évoqué entre les lignes cet accord. Il l'avait jamais évoqué à la justice, mais il l'avait évoqué dans un livre écrit dès 2000. Il l'a évoqué au journaliste Patrick Rothman dans un reportage télévisé quelques temps avant, et enfin devant le juge d'instruction. On peut estimer que quelqu'un qui répète trois fois les mêmes choses à des journalistes, les gens ont le droit de mentir à des journalistes, mais mentir à un juge c'est plus compliqué, donc on peut penser que ce qu'a dit Yves Bonnet au juge d'instruction est vrai.
Alors la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le pouvoir était au courant? Le gouvernement, et allons-y, jusqu'à l'Élysée et François Mitterrand. Alors ça j'imagine que la réponse vous ne l'avez pas.
On l'a plus ou moins dans les propos d'Yves Bonnet. Yves Bonnet, en fait, il dit que l'Élysée ne savait rien. Le « ne savait rien » est mis entre guillemets.
Ouais.
Après, on peut en penser ce qu'on
veut. C'est comme Greenpeace, quoi.
Exactement. ce qu'il dit Yves Bonnet, c'est que Gilles Ménage, qui était à l'époque le directeur de cabinet de François Mitterrand, était au courant de tout. Après, est-ce que François Mitterrand était mis au courant? Ça, en tout cas, Yves Bonnet ne le dit pas clairement.
Est-ce qu'on peut imaginer qu'une tractation pareille ait lieu aujourd'hui avec ceux qui nous assaillent, les derniers en date, Daesh par exemple? On imagine que ça peut pas être possible.
Bah, en tout cas, quand on voit les réactions politiques, notamment à notre article, on peine à imaginer que ce serait possible aujourd'hui. Effectivement, tout le monde se dit scandalisé qu'on ait pu négocier avec des terroristes. On a du mal à imaginer que la DGSI aujourd'hui ou la DGSE le ferait de la même manière qu'à l'époque.
Alors vous ajoutez dans votre article que cette affaire peut devenir une affaire d'État. Oui, bien sûr, on pense aux victimes. Vous pensez que si effectivement c'est vérifié, il y a risque de grand malaise aujourd'hui, 37 ans après les faits?
Ça, franchement, je ne sais pas. Ce que j'ai vu, c'est qu'après notre article, il y a eu beaucoup de demandes. Gilles Legendre a dit que les députés LREM étaient favorables à faire la vérité sur cette affaire. Éric Ciotti a, je crois, écrit au président Macron pour lui demander des informations sur cette affaire. Je sais que des avocats des partis civils ont demandé la création d'une enquête parlementaire.
Voilà, commission parlementaire, bien sûr.
Donc voilà, après, est-ce que il faut savoir aussi que beaucoup des protagonistes soit sont très âgés, soit décédés. Est-ce que ça aurait un impact réel? Ça, je n'en sais rien.
Vincent Gautreau, on va se retrouver dans quelques minutes et on va repartir dans l'année 82, dans le contexte de la France. Au début des années 80, il était difficile, elle était une cible du terrorisme. On va voir ça après avoir écouté Hubert Félix Thiéphen, Les Dingues et les Paumés.
Aéroport se transforme en bunker à 4 heures du matin. matin derrière un téléphone. Quand leur voix qui s'appelle se change en revolver et s'invite à calter en se gueulant comme un. Les dingues et les poupées se cherchent sous la pluie et se font boire le sang de leur vision perdue. Et dans leurs yeux mescal masquant leur nostalgie, ils voient se dérouler la fin d'une inconnue. Ils voient des rois fantômes sur des flippers en ruine, crachant l'amour folie de leur nuit métropole. Ils croient voir venir Dieu, ils relisent leurs lignes et retombent dans leurs bras glacés de baby doll. Les dingues et les poumées se traînent chez les Borgia, suivis d'un vieil écho jouant du rock'n'roll. Puis s'enfoncent comme des rats dans leur banlieue by night, essayant d'accrocher un regard à leur cou. Et lorsque leur tomba joue à guichet fermé, ils tournent dans un cachot avec la gueule en moine. Et sont comme les joueurs courant décapités, ramasser leurs jetons chez les dealers du coin. Les dingues et les poumons s'arrachent leur placenta et se greffent un pavé à la place du cerveau. Puis s'offrent des migales au bout d'un bazooka, en se faisant danser jusqu'au dernier mambo. Ce sont des loups frileux au bras d'une autre mort, piétinant dans la boue les dernières fleurs du mal. Ils ont cru s'enivrer des chants de mal d'aurore, et maintenant ils s'écroulent dans leur ombre animale. Les dingues et les paumés sacrifient Don Quichotte sur l'autel enfumé de leur fibre nerveuse. Ils disent à leur reine en riant du boycott, la solitude n'est plus une maladie honteuse. Reprends tes valkyries pour tes valseurs mazo, mon cheval écorché m'appelle au fond d'un bar. Et cet ange qui me gueule, viens chez moi mon salaud, m'invite à faire danser l'aiguille de mon radar.
Vincent Gautrono, au moment de l'attentat de la rue des Rosiers, après celui de la rue Marbeuf et avant d'autres, la France en ce début des années 80 est une cible du terrorisme international, notamment proche-oriental, on peut le confirmer, ça c'est un fait historique.
Oui, depuis la fin des années 70, effectivement, la France est ciblée. En 74, il y a l'attentat contre le peuple Saint-Germain à Paris. En 75, Carlos exécute deux officiers de la DST. Il y a une bombe qui est placée dans un train Paris-Toulouse en 82. Donc oui, la France est une cible. Le Fatah CR, enfin, Abou Nidal, commettra plusieurs actions en France, hein, notamment des assassinats ciblés. Donc oui, la France est clairement une cible à cette époque.
Et pourquoi elle est une cible ?
C'est difficile à dire, mais je pense que la France était impliquée dans beaucoup de choses au Proche-Orient.
Ouais, et notamment l'attentat du Liban contre la caserne Drakkar en était aussi une illustration tout à fait dramatique. Alors, la France est une cible, on l'a dit, de plusieurs natures, bien que la piste proche-orientale soit immédiatement privilégiée, et ce qui est encore le cas pour l'attentat de la rue des Rosiers, et pourtant l'enquête à cette époque-là piétine. Pourquoi elle piétine alors que la cible, la direction vers laquelle il faut tourner ses yeux, elle semble évidente?
Déjà, la France ne met effectivement pas beaucoup de temps à mettre Abou Nidal comme...
Oui, en même temps,
comme protagoniste principal de cet attentat. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, qui a été écrit par mon collègue, qui a une victime au téléphone, c'est qu'il y a une caissière du restaurant à l'époque qui explique que la première fois qu'elle a été entendue par la police, c'est en 2018. Elle n'avait jamais été entendue avant. pourquoi, c'est difficile à dire, mais elle s'en étonne en tout cas. Mais la première fois qu'elle a été entendue, c'est en 2018. Et il y a eu beaucoup de temps, effectivement, vous en parliez dans le sujet plus tôt, avant que Marc Trévidic obtienne des noms, obtienne des extraditions. Pourquoi ça a pris tant de temps, c'est difficile à dire.
Alors, qu'est-ce que vous inspire aussi cette revendication d'action directe? Enfin, ça montre aussi que effectivement la France était dans l'œil du cyclone. Elle avait ses terroristes intérieurs, si je puis dire, action directe. Puis il y avait les autres. Qu'est-ce que ça vous inspire?
C'est vrai que c'est étonnant. Ça a pas duré longtemps. Hein. Très vite, action directe a dit oui. autant pour nous. ça, nous n'en sommes pas responsables. Il y a eu ensuite effectivement la piste des Irlandais de Vincennes aussi, qui ont été accusés par l'antiterrorisme avant d'être mis hors de cause. C'est ce qui est bien dit dans le reportage. C'est finalement les balles retrouvées rue des Rosiers qui vont permettre aux enquêteurs d'avoir la conviction qu'il s'agit d'Abou Nidal parce que c'est les mêmes armes utilisées par le groupe terroriste en général dans ces attentats.
Alors, en 2002, Abou Nidal, le terroriste et cerveau présumé de l'attentat de la rue des Rosiers, meurt dans des circonstances mystérieuses. On ne l'imaginait pas mourir autrement, ça l'a dit, hein, vu son parcours, et sans avoir été inquiété dans cette affaire. Écoutez ce qu'en dit Françoise Rudzetski, présidente de SOS Attentat.
Abou Nidal a bénéficié tout au long de ses dernières années de protection. Il s'est rendu dans plusieurs pays qui n'ont jamais accepté de l'extrader. Ça pose une nouvelle fois le problème de la coopération judiciaire internationale et de la volonté réelle des États que soient jugés des terroristes. Dans les dossiers, on sait, on avait un petit peu, avec le juge Brugger, suivi son parcours, mais à un moment donné, il a été en Égypte, et là, je ne comprends pas bien, parce que aujourd'hui, l'Égypte dit participer à la lutte contre le terrorisme. Là où je m'étonne plus, c'est que des pays comme ceux-là ne nous aient pas extradés à Abou Nidal, mais vous savez, la Grande-Bretagne ne nous extrade pas Rachid Ramda, responsable et financier supposé des attentats de 95, et le 1er octobre, le procès va s'ouvrir de ces attentats, et Rachid Ramda sera jugé par contumace, donc il ne faut pas jeter la pierre qu'à l'Irak ou l'Égypte. Même en Europe, les pays ne sont pas prêts à lutter contre le terrorisme et à procéder à une coopération judiciaire réelle.
Voilà, on va y revenir sur cette coopération judiciaire, ce manque de coopération judiciaire, puisqu'on a entendu Françoise Rudzetski. Je rappelle que le 9 août dernier, il y a eu un rassemblement en mémoire des victimes, organisé donc à Paris, des victimes de l'attentat de la rue des Rosiers, et des survivants ont témoigné encore, et ont témoigné dans les colonnes de votre journal. Et je voudrais citer celui d'Elisabeth, elle s'appelle Elisabeth, survivante de la tuerie. Elle dit « J'avais 38 ans et j'étais serveuse au restaurant Goldenberg. Donc le 9 août 82, j'étais derrière le comptoir. La première explosion, comme un bruit de pétard, s'est produite près de deux tables vides et du présentoir à gâteau. Elle est précise, ses souvenirs sont précis. Le carrelage s'est brisé, dit-elle, mais les vitres n'ont pas tremblé. C'était le signal pour que les autres terroristes entrent dans la salle et tirent. La caissière a crié « Sauvez-vous, cachez-vous » et Dieu m'a donné le réflexe de me cacher sous une planche où était entreposée de la vaisselle. Un terroriste est entré dans la plonge et a tiré sur deux autres employés dont l'une est restée paralysée. La fusillade m'a paru durer une éternité. J'ai pensé très fort à ce que deviendrait mon fils sans moi si les terroristes m'avaient vu. C'est évident, je serais morte. » On va parler dans quelques minutes de ce manque de coopération internationale et de ce manque d'extradition dont pourtant la justice française avait tant besoin.
Collide. We'll wait for the crash, we'll never
cold. History drained my heart pained. Hands get dirty every time I touch gold. Ever secluded and well overguarded. Also idolized, over romanticized. So much to look at and so much to see. Can't wait to see you to get rid of me. Can I be on both sides? Will we ever collide? We'll wait for the crash, we'll never go back. I see you, I feel you, the perfect collapse. Can I be on both sides?
Je vais continuer avec ce fil rouge, c'est-à-dire la parole de cette survivante, d'abord parce que cette parole est forte et elle nous enseigne beaucoup hein, sur ce qui s'est passé. Vous lui posez la question, votre confrère du Parisien lui pose la question, comment vivez-vous depuis cet attentat ? Elle répond, elle s'appelle Elisabeth, hein, on vit avec une blessure morale. J'ai changé de métier pour devenir esthéticienne, mais je suis restée à Paris. Aujourd'hui, je suis retraitée. Il faut savoir, poursuit Elisabeth, que c'est seulement en 2016 que je me suis constituée partie civile dans le dossier, après en avoir parlé à mon avocat, maître Avi Bitton. Ce n'est que fin 2018 que j'ai été entendue par la DGSI pour la première fois. Ça veut dire que, en 36 ans, la police ne m'avait jamais interrogée. L'enquête a été bâclée au départ, dit Elisabeth. Pourtant, je suis sûr qu'un client que j'ai servi était l'un des terroristes. Enquête bâclée au départ, peut-être a-t-elle raison. Et si c'est le cas, ça tient à quoi, selon vous ?
Dans l'entretien de Yves Bonnet avec le juge d'instruction, il y a quelque chose qui saute aux yeux. C'est que l'entente n'avait pas l'air très bonne entre la DST et la police judiciaire qui était chargée de l'enquête à l'époque. Le juge demande rappelle à Yves Bonnet que durant le reportage de Patrick Rothman, un enquêteur de la brigade criminelle qui est à l'époque en poste, ainsi que Jean-Luc Bruguière, qui est aussi le juge chargé d'en faire, ont l'air de découvrir cet accord. Et lui répond tout simplement, ce n'était pas du judiciaire, notre activité n'était pas judiciaire, nous devions avant tout assurer la sécurité des Français. Sous-entendu, on n'avait pas donné ces éléments-là à la PJ. Il le dit même, pour le reste, c'était notre cuisine.
Ben voilà, tout est dit. Alors, dernière chose, il y a des tueurs présumés qui courent... Oui, pardon.
Et non, juste pour dire qu'aujourd'hui, Yves Bonnet assume cet accord. On lui a parlé et il le dit. Il dit très clairement, le but était d'assurer la sécurité des Français et il n'y a plus eu d'attentat suite à cet accord.
Oui,
et
il assume dit, parce qu'il n'y a plus d'attentat.
Voilà, ouais. Il assume en tout cas la réussite de cet accord tout en disant qu'il comprend aussi que les familles peuvent avoir du mal à le comprendre.
Bien sûr, rapidement, les assassins, parmi les assassins courent toujours, en Norvège, dit-on, dans les territoires palestiniens, en Jordanie. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les extrader de la part de la Norvège et de la Jordanie, par exemple?
C'est ce que disait bien votre intervenante un petit peu plus tôt, c'est la difficulté de coopération internationale. Pour la Jordanie, la personne a été arrêtée, la personne réfugiée en Jordanie a été arrêtée, a comparu et la Cour de cassation jordanienne a rejeté la demande d'extradition, estimant que cette arrestation dépassait le délai de prescription.
Voilà, donc fermez le banc. Merci infiniment Vincent Gautreneau pour ces éclairages et ces précisions autour de la révélation du mois d'août dernier de Yves Bonnet, ancien chef des services secrets. c'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'attentat de la rue des Rosiers, une émission que vous pourrez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Bien sûr, rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission, livres, références et vos commentaires. Si le cœur vous en dit, merci à Clément Vuillet qui était à la technique aujourd'hui et merci, puisque nous sommes jeudi, à toute l'équipe qui a préparé les affaires sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Jeanne Maillard, Adrien Cara, Adrien Mora. Attaché de production, Valérie Priolet. Coordination, Christophe Barrère. Programmation musicale, Muriel Pérez. Réalisation, Coyenne Guyenne, Jérôme Chélius, Benjamin Riquet.